Nicolas Feldman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur financier d'Onxéo. On va revenir avec vous sur votre actualité. Vous rencontrez les investisseurs aujourd'hui au Palais Brongniart. Devoir d'explication hein, après l'échec que vous avez connu il y a quelques semaines maintenant, que vous avez annoncé. Vous vous êtes expliqué. Comment, je dirais, vous réagissez en interne par rapport à ça? Parce que c'était l'attente, hein, sur l'IVATAC, c'était l'attente cette année pour Onxéo.
Bien évidemment, c'est vrai qu'un essai de phase 3 qui se déroule sur un certain nombre d'années, on attend les résultats avec impatience. On a été très déçus, hein, ça je ne vous le cache pas. On a finalement un aléa qui est dans tout développement pharmaceutique, mais là on n'a pas atteint le but qu'on s'était fixé. Donc déception, mais au-delà de ça, on voit qu'on a une activité sur ce produit, donc on va maintenant chercher à le confier à un partenaire pour la suite du développement et on espère pouvoir le valoriser de cette manière-là, parce qu'il y a une activité qui s'est quand même dégagée de cet essai. Et puis je pense que ce qu'il faut dire surtout, c'est que, et c'est ce qui imprègne notre état d'esprit aujourd'hui, c'est que Onxéo, ce n'est pas l'Ivatag, l'Ivatag, ce n'est pas Onxéo. En tout cas, ce n'était pas uniquement. On avait pris le soin de diversifier notre portefeuille pour faire face justement à ce genre de situation, être capable de rebondir rapidement, et on a une stratégie en place depuis plusieurs années qui nous permet d'aller de l'avant.
Donc, je dirais le point principal, c'est ben voilà, l'échec est là, mais il y a à côté de cet échec des opportunités pour Onxéo de développement.
Oui, je pense que la société a su se positionner sur un secteur qui était secteur de très forte attractivité. On voit qu'aujourd'hui, les produits qui constituent notre portefeuille, Beléodac et Acidna, sont dans des domaines qui sont celui respectivement de l'épigénétique et de la réparation de l'ADN, qui sont des domaines où notamment les big pharma sont peu présentes, mais vont y aller. C'est des domaines d'avenir. On a deux produits qui sont intéressants et, si vous voulez, notre enjeu aujourd'hui, c'est de mener ces produits vers la clinique, vers des preuves de concept pour pouvoir envisager une création de valeur à relativement courte échéance.
Alors bien sûr, la bourse a réagi à cette annonce, c'est quasiment 50% à peu près hein, de baisse du titre. Quand on a une telle réaction, est-ce que derrière, ça ne met pas à risque la société par rapport à, bah, je dirais, à sa situation quand il y a une telle chute?
Alors c'est brutal, c'est vrai, c'est un petit peu la règle du jeu, hein. Quand on a un actif qui est positionné en premier plan sur un développement avancé, bien évidemment la réponse boursière est forte. Après, la pérennité de l'entreprise, elle va s'articuler autour de deux éléments forts. C'est un, avons-nous des produits? Avons-nous du cash? Je réponds oui aux deux questions. La société, effectivement, par une politique active d'acquisition au cours des 3 dernières années a su doter son portefeuille de nouveaux produits qui sont sur un plan de développement très dynamique. Et d'autre part, sur le plan du cash, on a des réserves qui nous donnent une visibilité jusqu'à début 2020. Donc on est capable d'atteindre ce que l'on appelle en interne le point d'inflexion qui crée de la valeur sur les deux produits que l'on attend aux alentours de la fin de l'année 2018, début 2019.
Du côté justement des investisseurs, ils ont aujourd'hui, donc ils regardent forcément, ils vont valoriser différemment Onxéo, puisqu'il y avait ce Livatac qui était blockbuster, ou en tout cas, comme on dit hein, parfois sur ce secteur-là, attendu, qui n'est pas là. Du coup, est-ce que ça remet en cause quand même la valorisation de la société?
Je pense que les valorisations et je dirais la valorisation, elle est surtout finalement l'instrument des analystes financiers. Elle obéit à des codes. Après, la valorisation, c'est aussi l'offre et la demande. Donc, forcément, quand vous avez une rupture dans une histoire qui s'écrit, ça impacte la valorisation. Je pense que Onxéo est en mesure de reconstruire sur des actifs qui étaient déjà présents dans le portefeuille, de repartir en tout cas assez rapidement dans une politique ou en tout cas voilà, un cheminement de création de valeur. Et c'est cette proposition qu'on fait aujourd'hui à nos actionnaires, qui est de dire, on est des spécialistes du développement, on est plus précisément des spécialistes de ce qu'on appelle la recherche translationnelle, c'est-à-dire comment passer de la préclinique à l'homme, en dérisquant au maximum les programmes. On a aujourd'hui des techniques qui nous permettent de faire ça un vrai savoir-faire en interne. Donc la proposition de valeur, c'est ça, c'est de dire on a des actifs qui, je pense, peuvent être attractifs pour l'industrie pharmaceutique, et qui peuvent même, dans le cas d'Acidna, qui est dans la réparation, dans l'inhibition de la réparation de l'ADN tumoral, ouvrir de nouvelles voies dans le traitement du cancer. Donc c'est ça la proposition de valeur d'Onxio aujourd'hui pour ses actionnaires. C'est on a su dans le passé se doter des moyens de rebondir, être diversifié, et la société va continuer dans cette voie-là. Et j'aimerais peut-être ajouter un point qui me paraît essentiel dans ce paysage, c'est la plateforme Platon. On a annoncé il y a quelques jours le lancement de cette plateforme. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est toujours dans le domaine de l'ADN tumoral, être capable à l'avenir de générer des nouveaux produits, des nouveaux composés, et le faire de manière très efficace pour qu'ils arrivent ensuite en développement préclinique et clinique. Cette plateforme, elle a déjà généré Acidna, un produit qui est emblématique, et on espère pouvoir découvrir ou en tout cas faire émerger des nouveaux produits. Donc on a une politique qui était de croissance externe. Je crois qu'on a, avec Platon, la possibilité d'une recherche interne, en tout cas un momentum interne très efficace.
Il est plus facile de perdre 50% en bourse que de les récupérer. Hein. On est au Palais Brongniart ici, les boursiers savent ça très bien. Quel sera justement le mode d'opération pour vous pour retrouver la confiance et du coup un cours de bourse qui soit plus confortable pour les actionnaires qui étaient là avant?
Pour nous, la voie, si vous voulez, en tout cas, ce que l'on cherche à obtenir, là, c'est un point d'inflexion dans la valeur boursière qui sera très concrètement le résultat de l'avancement dans le programme de développement. Le fait qu'on atteigne une preuve de mécanisme chez l'homme ou une preuve de concept chez l'homme, et qui peut être pour nous un élément fort de discussion avec des partenaires potentiels. Donc c'est vrai que on va rechercher de la manière la plus précoce possible un tel partenariat, de manière à valoriser le produit, mais également à augmenter nos ressources financières. Donc pour nous, ça va être ça. La société ne cherche pas aujourd'hui à mener ses produits le plus loin possible, mais au contraire, à s'associer de manière assez rapide à des grands partenaires pharmaceutiques pour avancer efficacement.
Merci Nicolas Feldman d'avoir fait le point avec nous.
Merci.